Le mercredi 20 février, l'actualité, c'est aussi cette information venue du ciel. Des centaines de milliers de nouvelles galaxies inconnues pour la plupart ont été détectées par un nouveau radiotélescope européen, le LOFAR. Bonjour Cyril Tasse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Cette découverte est le fruit de milliers d'heures d'observation pendant 3 ans. 90% de ces nouvelles galaxies détectées étaient inconnues jusqu'ici. Alors, loin de moi l'idée de doucher d'emblée votre enthousiasme, mais le fait qu'il y ait 100 000 galaxies de plus ou de moins, ça change quoi ?
Alors déjà, on observe pas. Enfin, ce qu'on observe donc en radioastronomie, on observe du rayonnement de basse fréquence. C'est toujours de la lumière donc qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et donc ce qu'on observe en fait, donc c'est les particules très énergétiques en fait qui vont générer ces photons de basse énergie.
Et ça nous donne des indications sur quoi ces particules ?
Alors donc ce qu'on va observer donc c'est les quand on dit des galaxies en fait c'est un abus de langage. Mm-hmm. Ce qui va accélérer ces particules à très haute énergie pour émettre ensuite des ondes radio. Ce sont des phénomènes très violents. Par exemple donc ce qui se passe autour des trous noirs supermassifs. Donc au cœur de chaque galaxie on a un trou noir supermassif. On ne sait pas exactement ce qui fait là. Quelle est la relation entre le trou noir supermassif et
ça
la galaxie ?
Ça va nous permettre de percer le secret du trou noir.
C'est ça exactement. Donc en fait, l'idée c'est de comprendre ce problème d'œuf et de poule en fait. Qu'est-ce qui est venu d'abord, le trou noir ou la galaxie ? Comment se sont formées les galaxies ? Comment est-ce qu'ils se sont formés avec leur trou noir ? Et donc en fait, ces trous noirs, en fait, quand la matière tombe dans le trou noir, en fait, accélère des particules à très haute énergie et émet des ondes radio. Donc c'est ce qu'on voit avec l'OFAR.
Bah attendez, déjà qu'on fait, on récapitule parce que moi j'ai vu Interstellar 3 fois, j'ai toujours pas compris ce que c'était qu'un trou noir. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir ? Comment on peut le définir le plus simplement possible ?
Alors,
de ce qu'on en
sait
aujourd'hui.
Donc à la base, c'était un objet très très théorique en fait, qui a été oublié jusqu'en dans les années 60. Et dans les années 60, on a commencé à observer des phénomènes très énergétiques qui pouvaient être expliqués que par la présence de ces objets-là en fait dans l'univers. Et donc aujourd'hui, on en observe beaucoup, plein en fait. Au cœur de chaque galaxie, on voit un trou noir supermassif. Et un trou noir, là, en fait, c'est quand la matière est assez dense en fait pour s'écraser sur elle-même en un point. C'est-à-dire que la matière s'effondre en un point. Et donc la théorie nous dit que ce sont des objets très étranges en fait où le temps est arrêté en leur centre, la densité est infinie.
D'où cette idée des gens qui écrivent de la science-fiction qu'on pourrait voyager dans le temps en passant dans un trou noir, mais qui est très théorique, enfin très.
Ouais, après il y a beaucoup de théories qui peuvent décrire ces objets étranges. Et donc dans l'univers, il y a des choses qui ressemblent à des trous noirs qui existent. Et on sait qu'il y a des liens entre ces trous noirs et la formation et l'évolution des galaxies.
Donc ce nouveau télescope, c'est une nouvelle fenêtre sur l'univers. C'est une évolution, c'est une révolution ce télescope.
On peut dire que c'est assez révolutionnaire en fait. Donc c'est basé sur une révolution technologique, tout ce qui est lié aux technologies d'Internet en fait. Donc LOFAR c'est 100 000 antennes réparties partout en Europe en fait qui utilisent le réseau Internet pour communiquer.
Il y en a peut-être à côté de chez nous.
Oui, en France il y a une station.
Sur le territoire.
Il y a une
station
en France à Nancy.
Il y a combien de scientifiques qui travaillent sur ces projets ?
C'est plusieurs centaines de scientifiques, donc dans les instituts européens principalement.
Les nouvelles. Alors vous dites que c'est un abus de langage de parler de nouvelles galaxies, mais est-ce que ça change ? Est-ce que ce qu'on a découvert là ou ce qu'on va découvrir avec ce télescope, est-ce que ça va changer la cartographie du ciel telle qu'on le connaît actuellement ?
On espère que ça va changer la compréhension qu'on a de ces phénomènes, donc les trous noirs, la structure à grande échelle également. Parce que donc pour accélérer ces particules, il nous faut des phénomènes violents, donc style trou noir, supernova, c'est-à-dire l'explosion des étoiles, et aussi donc ce qui est évolution de la structure à grande échelle, c'est-à-dire que les galaxies ne sont pas réparties de manière complètement au hasard en fait dans l'univers. Il y a une structure qu'on appelle la structure à grande échelle, des filaments de galaxies qui sont connectés en amas de galaxies, et donc cette structure évolue, change en fait. On peut avoir des collisions d'amas de galaxies. Et quand les amas de galaxies collisionnent, en fait, ça accélère ces particules à très haute énergie, et ça, on les observe avec ces radiotélescopes.
Dans certains articles de vulgarisation, je dirais, on lit que ces découvertes vont peut-être nous permettre de remonter dans le temps. C'est-à-dire, en astronomie, plus on voit loin, plus on observe le passé. C'est ce que j'ai pu lire. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est ça, donc, puisqu'on a la chance d'avoir la lumière qui voyage à vitesse finie, en fait, le temps que la lumière arrive jusqu'ici, en fait, il s'est écoulé beaucoup de temps. Et donc, quand on observe un ensemble de galaxies à, par exemple, 1 million d'années-lumière ou 1 milliard d'années-lumière, en fait, on voit l'univers tel qu'il était il y a 1 million d'années ou il y a 1 milliard d'années.
Ça, c'est complètement.
Et comme l'univers évolue, en fait, on peut voir, on peut reconstituer le film de l'évolution de l'univers, en fait, et essayer de comprendre comment est-ce que ces trous noirs se sont formés, comment est-ce qu'ils sont, quels sont leurs liens avec les galaxies.
Et on en vient à, c'est toujours la question rituelle, hein, parce que moi je suis quand même un spécialiste de l'espace, et c'est la question un peu pointue que je pose à chaque fois que je reçois quelqu'un de pointu sur l'espace. Quand est-ce qu'on va découvrir des extraterrestres, non d'une pipe? Est-ce que ce genre d'outil, ce télescope, va permettre de peut-être d'observer des exoplanètes ou de trouver des extraterrestres quelque part?
Déjà, c'est difficile de donner une définition de ce que c'est la vie. Alors, on sait qu'il y a quelque chose qui ressemble à la vie qui existe localement, en tout cas sur Terre. Et on pense qu'elle existe, enfin, qu'elle bouillonne un petit peu partout dans l'univers. Ça dépend de la définition qu'on utilise de ce que c'est la vie. Et ensuite, avec des radiotélescopes, on peut essayer de détecter des signes de vie qui nous ressemblent, en fait. Donc, c'est les projets SETI. Ces projets-là utilisent des radiotélescopes pour essayer de détecter des exoradars, des radars militaires sur des planètes. Bon, ça reste que spéculatif.
C'est spéculatif, mais j'ai lu que la NASA, après 25 ans après l'arrêt brutal de son programme d'écoute, la NASA pourrait s'intéresser à nouveau à la recherche de civilisations extraterrestres. À l'automne, l'agence spatiale américaine a hébergé à Houston un colloque consacré aux technosignatures. Alors, je pense que c'est quand on est à la recherche de signes aussi extraterrestres.
Mais c'est donc ces gens-là, en fait, d'essayer de rechercher des signaux qu'on pourrait émettre. Selon les signaux sont de plus en plus cryptés et encodés. En tout cas, les signaux humains sont de plus en plus difficiles à détecter.
Vous m'avez pas l'air de croire qu'on va trouver cette vie extraterrestre, alors que moi, je l'attends avec impatience. Ça nous fera une bonne ouverture de journal, ça, imaginez.
Essayez de définir ce que c'est la vie, déjà, c'est difficile.
Oui, c'est vrai, il faut repartir à la base. Merci beaucoup, Cyril Tasse. Je rappelle que vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.